du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Alors, un petit mot pour les enfants. À l'origine, dans les premiers temps de l'histoire de l'Église, on ne célébrait que les martyrs. On ne célébrait pas les autres saints, ceux que nous appelons les confesseurs, les vierges, les pontifes, les saintes femmes. C'était réservé seulement au culte des martyrs qui avaient versé leur sang pour témoigner de leur attachement, de leur fidélité à Jésus. Puis au IVe siècle, on va étendre justement le culte des saints aux autres saints pour attirer l'attention des fidèles, de tous les fidèles, sur le fait que la sainteté n'est pas réservée aux martyrs. La sainteté n'est pas réservée à ceux qui meurent pour le Christ. Et au VIIe siècle, le pape va transformer un temple païen qui était à Rome, qui s'appelait le Panthéon, que peut-être certains ont déjà visité, va transformer ce temple païen en église, et au lieu d'être dédié à tous les dieux, les faux dieux, eh bien, il va le consacrer à la Vierge Marie, la Très Sainte Vierge, et aux saints. Voilà, c'est l'origine un peu de notre fête de la Toussaint, où on fête tous les saints connus et les saints inconnus. Et il y a bien plus de saints, évidemment, dont nous ignorons le nom, que de saints inscrits au calendrier. Cette fête, encore une fois, nous rappelle, vous rappelle à vous, chers enfants, que la sainteté n'est pas réservée à quelques-uns. Dieu veut que nous soyons tous saints. Ça veut dire quel que soit notre âge. Et pour vous prouver même que la sainteté est possible quand on est tout petit, eh bien le petit enfant qui a reçu le baptême, il est saint. Et il est saint plus que vous et moi. Parce que rien ne tache cette sainteté reçue de Dieu. Oui, le petit enfant qui a reçu le baptême, il est resplendissant de sainteté. Beau mystère. Donc les saints, ce ne sont pas seulement ceux que nous voyons en statue dans nos églises. Saint Louis, Saint Antoine, Sainte Thérèse, Sainte Jeanne d'Arc, et les autres encore. La Sainte Vierge, bien entendu. Les saints, ce ne sont pas seulement ceux qu'on voit dans les vitraux. Parce que ce n'est pas tellement des saints qui sont représentés, sauf dans le cœur. Les saints, c'est tous ceux qui ont cherché, tous ceux qui cherchent à faire la volonté de Dieu. Voilà ce qui est demandé. Tous les saints, même ceux qui sont en statue ou en vitrail, tous les saints étaient pécheurs, sauf la Sainte Vierge, qui est l'Immaculée Conception. Mais tous les saints étaient pécheurs. Tous les saints, en revanche, ont reconnu leur péché, ont demandé pardon à Dieu, et ont essayé, avec la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, eh bien de progresser, de tendre toujours plus vers la sainteté, qui n'est pas l'œuvre d'un jour. Ce n'est pas en sortant de cette église que ça y est, ça sera fait. La sainteté, pour nous, c'est l'œuvre de toute notre vie. Et comme les saints, en statue et en vitrail, nous devons nous aussi reconnaître que nous sommes pécheurs, demander pardon, mais avoir toujours le désir d'être plus unis à Dieu, être amis de Dieu. Et en fait, c'est ça d'ailleurs la définition d'un saint. Si on vous demandait qu'est-ce qu'un saint, vous le connaissez sans doute, vous l'avez appris au catéchisme probablement, un saint, en un seul mot, c'est un ami de Dieu. Donc pour les plus grands. Eh bien, chers frères, combien de chrétiens pensent que la sainteté n'est pas pour eux, qu'elle est hors d'atteinte, accessible seulement à une élite, voire à une petite élite. Et ils se disent, de façon finalement un peu faussement humble, que Dieu ne peut pas leur demander d'être saint. Dieu doit se contenter pour eux, eh bien, d'une certaine médiocrité. Peut-être ne pas être quelqu'un d'affreux, d'être un peu honnête, mais finalement Dieu ne peut pas me demander d'être un saint, c'est réservé à d'autres. Quelle tristesse, mes bien chers frères, quelle tristesse de réduire finalement notre vocation qui qui est une vocation à la sainteté, de la réduire à une vocation à la médiocrité. Sans doute, pour le plus grand nombre, la sainteté ne consistera pas dans des actions d'éclat héroïque. Nous n'allons sans doute pas, comme Jeanne d'Arc, monter sur un cheval et remettre le roi sur le trône. J'espérais, mais ce ne sont pas notre vocation. Oui, en fait, la sainteté, ce sera l'humble devoir d'État rempli avec amour. Ce sera le terrible quotidien qui, reconnaissons-le, peut être monotone. Le terrible quotidien, vêtu de son mieux, c'est faire les choses ordinaires, comme on dit, d'une façon extraordinaire. Parce que tout, mes bien chers frères, tout peut être fait pour Dieu, par amour. Comme disait Guy de Larigaudy, on peut mettre plus d'amour à peler des pommes de terre qu'à construire des cathédrales. Quelle bonne nouvelle! Oui, nous pouvons mettre plus d'amour à peler des pommes de terre qu'à construire des cathédrales. Au fond, la sainteté, nous le savons, ne dépend pas tant de ce que je fais, mais de l'amour avec lequel je le fais. Puisque la sainteté, c'est la perfection de la charité. Voilà une autre définition de la sainteté. C'est la perfection de la charité. Amour de Dieu et du prochain. La petite Thérèse, qui est une grande Thérèse aussi, parce qu'elle est docteur de l'Église, qu'elle nous conduit avec, on peut dire, avec sagesse et assurance sur la voie de la sainteté. Sainte Thérèse nous dit que la sainteté n'est pas dans telle ou telle pratique. Elle consiste en une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits entre les bras de Dieu. Conscient de notre faiblesse et confiant juste à l'audace en sa bonté de Père. Oui, être conscient de sa faiblesse. Ça n'est pas un obstacle à la sainteté. C'est tout au contraire une disposition nécessaire à la sainteté. Que je sois conscient que je ne suis rien, que j'ai tout reçu de Dieu. Je ne suis rien par moi-même. Comme disait Jésus à Sainte Catherine de Sienne, « Je suis celui qui suis et tu es celle qui n'est pas. Tu n'es pas par toi-même. » Alors bien sûr, certains actes sont contraires à la volonté de Dieu et on ne saurait les faire par amour. Un Dieu veut être aimé en esprit et en vérité, et non par de belles paroles qui seraient contredites par nos actes. Mais cette belle fête de la Toussaint doit nous permettre de sortir de cette église tout à l'heure, je l'espère du moins, en nous disant « Dieu veut que je sois un saint. Dieu veut que je sois une sainte. Je puis donc le devenir avec la grâce de Dieu. » Oui, la sainteté est la plus belle aventure que nous puissions vivre. Non seulement la plus belle parce qu'elle est si haute, si admirable, mais la plus belle aussi parce qu'elle est à notre portée, à notre mesure, puisque c'est Dieu qui nous y appelle et Dieu qui veut nous y conduire. On comprend mieux alors l'invitation de l'Église dans l'introït de cette messe. Si vous avez ouvert votre missel, je ne sais pas si c'est la missel, Gaudeamus, réjouissons-nous. Et cette introït, Gaudeamus, cette introït, nous le retrouvons souvent dans l'année. Nous l'avons eu il n'y a pas très longtemps pour Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. Nous le rencontrons encore pour Sainte Agathe, Sainte Anne, Saint Thomas de Canterbury. Et autrefois, nous l'avions aussi pour la fête de l'Assomption de la Très-Sainte Vierge Marie. Oui, mes bien chers frères, il faut nous réjouir. Nous réjouir avec les saints et les anges. Il faut nous réjouir dans le Seigneur. Alors, sans doute, sur la terre, notre joie n'est pas encore parfaite, nous le savons. Elle s'accompagne de bien des souffrances, bien des larmes, bien des gémissements. Mais lorsque notre course terrestre prendra fin, si nous sommes restés fidèles, nous recevrons la couronne qui ne se flétrit pas. Écoutons ce que dit saint Paul à son disciple. « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course, j'ai maintenu la foi. Il ne me reste plus à recevoir la couronne que le Seigneur me remettra, lui le juste juge. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont attendu avec amour son avènement. Et nous entendrons, comme le voyant de Patmos, Saint Jean, la voix forte qui viendra du trône et qui dira « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car l'ancien monde s'en est allé. » Eh bien, chers frères, ce sera la fin de la mort et de la souffrance, la fin de l'histoire et de ses révolutions. Nous comprendrons alors les plans de Dieu, ces voies si souvent déroutantes pour nos intelligences bornées. Nous comprendrons que toutes ces œuvres sont des œuvres d'amour et qu'il a bien fait toutes choses. Satan et les démons seront définitivement rejetés dans l'enfer avec les damnés. Alors, eh bien, chers frères, pour partager un jour le sort des saints dans la lumière, suivons leurs pas dès ici-bas. Comme eux, imitons Jésus, le divin modèle, dont les béatitudes que nous venons d'entendre nous tracent un saisissant portrait. Douceur, humilité, patience, c'est le secret de la sainteté. Dieu donne sa grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Confions-nous enfin, mes bien chers frères, à notre Mère du Ciel, que nous avons honorée pendant tout le mois d'octobre comme Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. Confions-lui nos difficultés, nos craintes, nos doutes, nos misères, mais aussi nos joies et nos espoirs. Demandons-lui, ainsi qu'à tous les saints du ciel qui contemplent la gloire de Dieu, que nous puissions comprendre un peu mieux la grandeur du ciel et la petitesse de la terre, la brièveté du temps et la longueur de l'éternité, pour n'avoir qu'un seul désir, voir Dieu. Et je veux voir Dieu, joie sans fin des bienheureux. Je veux voir Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.